Pierre-Henri Bouillon.
Ouais, je voudrais revenir à ce qu'a dit Jean-Yves Naud sur l'histoire du principe de précaution. Je pense qu'effectivement, d'abord, il faut savoir que le principe de précaution a été donc inclus dans l'annexe à la Ve République, à la Constitution de la Ve République consacrée à l'environnement, contre l'avis des scientifiques, hein, enfin des instances représentant les scientifiques. Il y a plein de scientifiques qui sont d'accord, mais les instances qui les représentent, en gros, ne l'étaient pas, et en particulier l'Académie des sciences, l'Académie de médecine, ont œuvré autant qu'elles le pouvaient pour éviter ça. Donc il ne faut pas s'étonner si, du coup, ces questions-là ne sont pas très très bien gérées dans le milieu scientifique. Il y aurait pourtant des manières de le faire, parce que ce qui est incroyable, c'est que quand on dépose un projet de recherche au CNRS, à l'INRA, à l'INSERM ou n'importe où, eh bien, au moins si on est en biologie, je vous garantis qu'il y a toujours un chapitre sur les applications potentielles. Peut-être pas en astronomie, mais en biologie, systématiquement, il y aura quelque chose sur les applications potentielles. Mais il n'y a jamais rien sur les risques potentiels. Or, on pourrait parfaitement demander qu'un programme de recherche contienne nécessairement une réflexion sur les risques et sur les recherches à faire pour les connaître. Mais ça ne fait pas partie de la culture, tout simplement. La culture des scientifiques à l'heure actuelle n'inclut pas le fait de se poser cette question-là à ce moment-là. Et ça a une importance très grande parce que, qu'est-ce qui se passe? On va donc mettre en place un projet de recherche qui a une application potentielle. Aujourd'hui, étant donné le fonctionnement économique et politique du monde dans lequel nous vivons, étant donné le niveau de compétition qu'il y a, dès que la recherche va commencer à être sur le point d'aboutir, les applications vont être lancées, avant même d'ailleurs que la recherche soit terminée. Et une fois que les investissements seront faits, que les applications seront sur les starting blocks, c'est là qu'on va se demander s'il y a des risques. Évidemment, il est trop tard. Il y a des tas de gens qui ont investi à fond sur ce truc-là, et ils vont se retrouver obligés de faire du lobbying pour éviter qu'on parle des risques. Donc vous voyez, si jamais il y avait une vraie culture chez les scientifiques, et ça, je pense que les journalistes pourraient peut-être aider à ça, hein, en disant aux gens, mais posez-vous les questions plus tôt, bon Dieu, plutôt que de vous les poser au moment où les produits sortent, à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait avoir un rapport un peu moins conflictuel entre, non pas la science elle-même, mais les applications de la science qui, comme j'ai dit tout à l'heure, prennent une place tellement grande qu'elles occultent presque la science, et puis la société.
C'est un peu ce qui se passe avec les nanotechnologies, où on s'est rendu compte que la part d'études consacrée justement à envisager les risques était extrêmement
faible. Mais c'est tout le temps comme ça. Quand on a lancé Génoplante, hein, le truc qui était fait pour faire la biologie moléculaire des plantes, j'avais demandé à ce qu'ils mettent 1% de leur budget sur les risques en matière fusée.
Oui, mais moi, je trouve que vous schématisez un peu, parce que... je vais prendre un exemple. L'agence qui est en France chargée de la sécurité environnementale, à l'époque où elle n'était pas associée à l'agence de sécurité sanitaire des aliments, avait fait un énorme travail en réunissant un grand nombre d'experts pendant une longue période pour reprendre toute la bibliothèque scientifique existant à l'échelon mondial sur les risques éventuels de téléphonie mobile. Les experts ont conclu qu'il n'y avait pas de risque évaluable en l'état actuel des connaissances, avec le recul qu'on a, etc., avec tous les modératos qu'on peut mettre. Mais le responsable de cette agence a dit « ce n'est pas parce qu'un risque n'est pas évaluable qu'il n'existe pas ». Alors si on postule qu'il y a toujours un risque quelque part qu'on ne peut pas évaluer mais qui est potentiellement présent, qu'est-ce qu'on fait ?
Le principe de précaution est justement là pour indiquer qu'il faut continuer les recherches pour évaluer mieux le risque.
Moi je vais vous donner un autre... Ah pardon.
C'est pas toujours aussi compliqué dessus. Que ça.
Voilà, c'est ça.
là on est dans un cas très compliqué. Je vais vous donner un cas qui est quand même assez marrant, le véhicule électrique. Ça fait 20 ans qu'on parle, 100 ans qu'on parle du véhicule électrique. Ça devient à la mode, on va peut-être faire des véhicules électriques. Ça va sortir. Et tout d'un coup, les gens se disent « Ah, mais on va avoir des problèmes de lithium. » Le lithium, c'est ce qui fait les batteries. Et on va avoir une pénurie de lithium. Est-ce que ça, on ne le savait pas il y a 10 ans? On n'a pas découvert de nouvelles ressources de lithium. Donc, autrement dit, quand on lance ce genre de recherche, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a les ressources? Est-ce que ça a des chances d'être un jour économique? Est-ce que ça a des chances ou pas d'avoir des ennuis dans l'environnement? Est-ce que ça a des risques vis-à-vis de la population? Et ça, c'est des choses qu'on pourrait faire en parallèle et non pas en série. Absolument. Parce qu'effectivement, quand on les fait en série, on dit, ah, mais maintenant, on a un Concorde, il faut s'en servir.